RFI, grand reportage. Charlotte Hydrac. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Grand reportage nous emmène aujourd'hui en Égypte, dans le sud Sinaï. Au sein du monastère Sainte-Catherine se trouve la plus vieille bibliothèque du monde. Elle vient de réouvrir ses portes après avoir été entièrement rénovée. Et pendant les travaux, une équipe de chercheurs a travaillé sur la collection exceptionnelle de manuscrits de la bibliothèque. Ils ont utilisé des moyens technologiques ultra sophistiqués pour révéler les secrets des textes effacés il y a des centaines d'années. Les trésors de papier du monastère Sainte-Catherine. Grand reportage, signé François Imferkataji.
Il y a quelques années encore, il fallait prévoir une traversée du désert de 10 jours en chameau pour rejoindre le monastère Sainte-Catherine, modeste forteresse nichée dans une vallée aride, au pied des monts Sinaï et Moïse. Désormais, seule une douzaine de checkpoints ralentissent la course en voiture entre la côte et ce lieu de prière et de vie. Ces terres reculées et désertiques sont habitées d'abord par quelques ermites au début du IIIe siècle. C'est ici que les religieux pensent avoir identifié le buisson ardent, le végétal constamment en feu qui, dans la tradition biblique, est à l'origine de la révélation du Dieu éternel à Moïse. Dans le silence de ces montagnes ocre et sèches, de grands murs construits sur ordre de l'empereur Justinien au VIe siècle protègent l'église de la Transfiguration et la basilique du buisson ardent. Il y a même une petite mosquée construite à l'époque fatimide. La tribu bédouine des Jamalia, qui vit autour du monastère, est également historiquement chargée de la protection du site chrétien. L'endroit n'est pas tout à fait inhospitalier. Les eaux des sommets ruissellent depuis les flancs vers cet écrin spirituel. Pendant 1700 ans, les moines ont cultivé leur jardin et on trouve encore autour du prieuré un terrain d'éclive fleuri de cyprès et d'aubépines, un verger riche de citronniers, de manguiers et de goyaviers. Après de longues heures de bus depuis le Caire, c'est le moment de baisser la tête pour pénétrer dans l'enceinte de ce lieu mythique. Seul un minuscule passage a été percé dans le large mur d'enceinte. Nous empruntons des ruelles, passons des pontons, montons et descendons des escaliers et retrouvons notre hôte, le père Justin. Depuis la coursive du quatrième étage, une vue sur l'entièreté du monastère, classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
When monks first began to go out into the desert,
lorsque les moines ont commencé à s'installer dans le désert, ils sont venus ici, dans le Sinaï, parce que c'était un lieu saint, mais aussi parce que c'est un lieu reculé de silence. Donc depuis le IVe siècle, les moines vivent dans le silence du désert. Aujourd'hui, il y a 25 moines dans la communauté et un évêque. Tous les moines ont une tâche particulière, des compétences spécifiques, et travaillent ensemble avec les bédouins qui vivent dans les environs, dans l'objectif de préserver tout cela, mais aussi d'accueillir les pèlerins et les visiteurs qui viennent ici. Nous donnons les messes, je m'occupe de la chorale, je gère aussi la bibliothèque que je dois rendre accessible aux universitaires. J'essaie de prendre part aux décisions qui concernent les préservations des textes, la rénovation de la bibliothèque. Tout cela est de ma responsabilité. Et parfois, quand vous avez trop de responsabilités, c'est très fatigant. Et vous ne savez plus comment prendre les bonnes décisions. Vous allez alors dans la montagne pendant 3 jours, dans le silence complet, et c'est comme remonter le temps des milliers d'années en arrière. Vous pouvez contempler le Sinaï éternel. Si vous savez vous laisser envahir par la vie spirituelle, vous pouvez être au-dessus de toutes les difficultés du quotidien.
Oui, le père Justin, au milieu du désert, est très occupé. Il s'occupe de la plus vieille bibliothèque du monde encore en activité. Les pèlerins de passage, les anachorètes, les scientifiques ont laissé au cours des siècles des milliers d'ouvrages que les religieux ont conservés avec soin. Le moine fait un signe de la main et nous invite à le suivre. Dans une grande toge noire, son long corps semble flotter. Avec ses minuscules lunettes et sa barbe interminable, il a sans conteste des airs de Dumbledore. Un petit sourire en coin, il ouvre pour nous la dernière porte, celle de la bibliothèque, habituellement réservée aux universitaires. 3500 manuscrits multicentenaires y sont conservés après 8 ans de travaux sous la supervision du père Justin à l'École Neuve.
This is the room where we had all of the manuscripts and all of the early printed books. And it was just a simple utilitarian hall, like a warehouse.
Nous voilà donc dans la pièce qui accueille tous les manuscrits et tous les livres imprimés anciens. Avant, c'était juste une simple réserve, comme un entrepôt. Mais c'était un avantage d'avoir une telle pièce pour la librairie. Nous avons voulu demander aux architectes d'imaginer un espace aux normes modernes. Nous voulions une belle pièce, même si elle n'est pas ouverte au public, seulement aux visiteurs de marque. Nous voulions leur offrir de meilleures conditions de travail. Nous avons commencé en 2009 et nous avons achevé les travaux au mois de septembre. Nous avons travaillé pendant une décennie.
La grande salle rectangulaire est complètement vide. En son centre, des colonnes permettent au plafond de tenir en place. Et tout le long des murs, des milliers d'ouvrages sur deux niveaux. En bas, les manuscrits sont entreposés dans des cabinets grillagés, enroulés dans un papier sans acide et classés par numéro.
Chaque manuscrit comporte trois numéros. Le premier numéro est celui du cabinet, le second celui de la colonne, et à l'intérieur du cabinet, un troisième numéro pour l'étagère, en comptant de bas en haut. Beaucoup de gens disent que cette bibliothèque est le disque dur de toute notre histoire ici.
Les vieux grimoires ont résisté au temps grâce à l'attention des hommes, mais aussi en raison des conditions climatiques favorables.
Le climat ici est très sec et le taux d'humidité est à peu près toujours le même. Il pleut seulement pendant l'hiver. Nous n'avons jamais la chaleur combinée à l'humidité. Et c'est pourquoi les manuscrits et les autres ouvrages sont dans un excellent état de conservation. C'est le climat, l'isolement du lieu, les soins et la bienveillance du monastère qui ont permis que les ouvrages soient protégés pendant si longtemps.
And the care and diligence of the monks to protect everything here.
De multiples précautions supplémentaires ont été prises pour protéger la collection. Les matériaux utilisés, l'isolation, le déménagement des cuisines et de la réserve d'eau sur le toit, et enfin des technologies de pointe en cas d'incendie.
And you can see the security cameras that are around.
Vous pouvez voir les caméras de sécurité qui se trouvent tout autour. Les détecteurs de mouvement, les lumières rouges qui s'allument quand quelqu'un se déplace. Il y a aussi des détecteurs de fumée. C'est une façon très sophistiquée de protéger la bibliothèque de la destruction par le feu, sans avoir à utiliser de l'eau ou de la poudre.
Jusqu'en 1951, le monastère n'était pas raccordé au réseau électrique, et le voilà à la pointe. Alors, pourquoi est-il si important de protéger ces manuscrits ? Même les plus abîmés, un peu plus de 1000 en état de dégradation avancée, ont été redécouverts en 1975, cachés dans le mur nord du monastère. Que contiennent ces mystérieux grimoires ? Pour le savoir, nous quittons la bibliothèque et nous entrons dans une pièce où les écrans d'ordinateur côtoient de grosses machines qui ressemblent à des pupitres 4.0. Deux manuscrits, l'un en syriaque et l'autre en arabe, semblent être opérés par des chirurgiens du livre. Ils sont photographiés, numérisés, classifiés. Le religieux observe et donne ses explications, toujours à voix basse.
The photography of the Syriac and Arabic manuscripts is just the first phase.
La mise en image des manuscrits syriaques et arabes, ce n'est que la première phase. Il y a aussi beaucoup de manuscrits de musique grégorienne, beaucoup d'autres ouvrages, et au final, nous aimerions tout photographier. Nous savons que nous avons 3300 manuscrits. Ils sont écrits en 11 langues. Les plus communes sont le grec, l'arabe, le syriaque, le géorgien, le slovaque. Nous avons des archives de correspondances, documents et aussi une collection très importante de rouleaux. Nous avons environ 1200 rouleaux arabes et 800 en turc, qui datent de l'Empire ottoman. La plupart des textes en arabe sont des textes religieux, mais il y a aussi des textes médicaux, scientifiques, des récits de voyage, et quelques-uns des rouleaux évoquent des accords avec les Bédouins ou des communiqués. On a voulu que le monastère les conserve pour une raison ou pour une autre. Il y a beaucoup de documents personnels. Mais la plupart des manuscrits, ce sont des messes, des écritures bibliques, des homélies ou des livres qui invitent à la sagesse.
Scriptures, homilies, books of spiritual wisdom.
Pouvez-vous me passer le manuscrit ? C'est une collection de prophéties pour lire les vêpres. Elle date du XVIIe siècle.
Mm-hmm.
Michael Phelps dirige les opérations. Il est à la tête de la bibliothèque électronique des manuscrits antiques, l'EMEL, une organisation américaine à but non lucratif.
It is the first time we're using this new photography system with the manuscripts.
C'est la première fois que nous utilisons ce nouveau système de photographie. Nous entraînons nos équipes qui s'occuperont plus tard de sélectionner et de mettre en image les ouvrages. On commence avec des manuscrits en bon état. Nous vérifions toutes les pages pour constater les éventuels dommages et savoir si c'est inquiétant. Ça nous permet aussi de mieux manipuler l'ouvrage au moment de l'opération et ainsi d'assurer sa protection.
L'EMEL entame donc un nouveau projet qui consiste à numériser 40 000 pages de manuscrits en syriaque et en arabe. Ce sont les tout premiers jours, mais il faudra au moins 4 ans pour venir à bout de cette tâche considérable. 4 ans dans cette petite pièce sans fenêtre pour donner au monde entier la possibilité de pouvoir consulter de n'importe où ces ouvrages du Moyen-Âge. Un travail laborieux qui rappellerait presque celui des fabricants de livres à une époque où le livre était un objet rare et précieux qui demandait 6 mois de travail. 4 ans de plus, car les équipes d'EMEL ont déjà travaillé pendant 5 ans sur un précédent projet qui a fait frissonner les paléographes, linguistes et les historiens. Car la collection de manuscrits du monastère Sainte-Catherine est particulière. Elle compte le plus grand nombre de palimpsestes au monde, au moins 160. Un palimpseste est un document où se chevauchent plusieurs textes sur une même page. À l'époque, le papier coûtait très cher. Les scribes avaient donc pour habitude d'effacer à la pierre ponce un texte déjà ancré pour pouvoir réutiliser le parchemin. Le père Justin et Emel se sont donc donné le pari fou de réussir à déchiffrer les textes effacés il y a de cela des centaines d'années. Michael Phelps retrace cette folle aventure et les nombreuses découvertes de l'équipe.
Nous avons réuni 40 personnes, des dirigeants, des scientifiques, des photographes, pour un projet de 5 ans au monastère Sainte-Catherine. L'idée était d'utiliser les technologies les plus sophistiquées du moment, appliquées au patrimoine culturel, notamment l'imagerie multispectrale. Le but étant de découvrir les couches effacées des palimpsestes qui se trouvent ici. Pendant ces 5 années, nous avons soumis à l'image multispectrale 6800 pages de manuscrits palimpsestes et les découvertes sont incroyables. Nous pensions que ce monastère était isolé, reculé dans le désert, mais nous avons trouvé 10 langues différentes conservées sous les couches des textes. Et ces textes datent du 5e au 12e siècle. Il y a plusieurs genres, des bibles, des ouvrages de théologie, des prières et des liturgies, tout ce que vous pouvez trouver dans un monastère. Mais ce qui a été le plus excitant pour les universitaires, ce sont les textes classiques qui ont été découverts. L'un des textes effacés montre les restes d'une bibliothèque médicale. Il y a 6 textes de médecine, 3 sont d'Hippocrate, certes déjà connus, mais ce sont les plus vieilles copies que nous avons trouvées à ce jour. Elles ont plus de 400 ans. Et puis il y a 3 autres textes médicaux qui, eux, n'étaient pas du tout connus des spécialistes et universitaires. L'un d'eux donne une méthode pour des opérations chirurgicales. Un autre se révèle être un album illustré de plantes médicinales. Et puis il y a aussi un glossaire du vocabulaire médical. Il y a aussi un poème mythologique qui a été découvert, il date du 5e siècle, peut-être 6e. Il mentionne Perséphone, Hadès, Zeus, ce sont des figures de la mythologie classique. Voilà quelques exemples des joyaux que vous pouvez trouver dans les textes classiques, très populaires dans le monde antique, qui ont été découverts parfois sous 9 couches de texte.
Popular in the ancient world, but not preserved for us today, is discovered in these benignly censored layers of a palimpsest.
Quelles technologies ont été utilisées pour faire de telles découvertes? C'est un jeune grec, Damien Kazokatis, le directeur de la photographie, qui nous l'explique.
L'imagerie multispectrale, c'est une façon de photographier à multiples reprises un objet qui est éclairé à chaque fois avec une longueur d'onde différente. Notre système passe de l'ultraviolet à l'infrarouge, qui sont tous les deux invisibles à l'œil nu. Cette technologie nous donne la possibilité de faire de nombreuses analyses sur l'objet, pas seulement de révéler le texte effacé, mais nous pouvons aussi analyser l'encre qui a été utilisée. Donc, ce n'est pas exactement nouveau ce que nous faisons. C'est le même principe que l'imagerie satellitaire, mais c'est la première fois qu'on l'utilise pour du patrimoine culturel.
À l'extérieur du monastère, sur la terrasse en face des chambres d'hôtes et dans la fraîcheur mordante de la nuit, Michael Phelps se souvient des meilleurs moments de ses 5 années de travail.
The interesting thing about imaging erased text is you don't know what you're imaging. You can tell that there's an erased layer of writing there. You can see it faintly. Ce
qui est passionnant avec ces textes, c'est que vous ne savez pas au moment de la capture ce que vous avez entre les mains. Vous devinez qu'il y a une couche qui a été effacée, vous pouvez en discerner le langage, mais vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous manipulez. Il y a peu, Damian, le directeur de la photographie, faisait des captures. Il est sorti de la pièce d'étude en disant « des fleurs sortent du manuscrit ». J'ai cru qu'il plaisantait, et quand je suis venu voir, effectivement, la lumière ultraviolette révélait une page pleine d'illustrations de plantes médicinales qui avaient été estompées et recouvertes de calligraphie arabe.
Et
puis, ce qui est important pour ces palimpsestes, c'est que vous avez deux textes dans le même espace physique, donc vous posez d'autres questions que vous ne pourriez pas vous poser avec d'autres manuscrits. Une communauté a écrit sur la couche inférieure et une autre sur la couche supérieure. Et entre les deux, il y a un manuscrit qui fait le lien entre ces deux communautés. Alors on peut se poser des questions historiques. Comment ces ouvrages ont-ils circulé? Comment la littérature s'est-elle transmise? Il y a une relation à expliquer entre la couche inférieure et la couche supérieure.
Et donc vous pouvez poser des questions historiques sur le mouvement des livres, la transmission de la littérature, continuity of experience of communities or change because of the relationship of the top layer and the bottom layer.
Une relation de confiance s'est engagée entre les équipes d'Emel et les moines, en particulier avec le père Justin, le religieux qui travaille depuis plus de 20 ans dans la bibliothèque, a fini par s'attacher profondément à ces feuillets précieux.
Well, especially, you know, when scholars come here, all of these manuscripts are important to them. But then when you live here,
quand les universitaires viennent ici, tous ces manuscrits sont très importants pour eux. Mais quand vous vivez ici, ils deviennent encore plus importants. Parce que tous ces manuscrits n'ont pas été écrits ou apportés ici seulement par le travail des scientifiques. C'est aussi des écrits pour les prières, pour inspirer les moines qui ont vécu ici. Ils ont été apportés par des pèlerins pour les rendre disponibles à d'autres pèlerins. Nous sentons d'un coup un lien avec les gens qui ont habité ce lieu il y a des siècles. Nous voyons dans ces livres leurs efforts, les traces de cire qui ont coulé sur les parchemins, parce qu'on lisait les services à la bougie, dans la chambre. Nous sentons aujourd'hui que nous prolongeons leur travail et leurs efforts. Nous lisons les candles et services et dans leurs
rooms, et même ces petites traces d'individuels use deviennent très importantes, très inspirantes, et nous sentons une continuité avec leur travail et leurs efforts.
Les trésors de papier du monastère Sainte-Catherine, un grand reportage de François Imferkataji, réalisation Pierre Chaffanjon.